RFI, il est 8h, à Paris 7h en temps universel.
Marion Cazanov.
Le journal avec Simon Bourtembourg à la une. Une nouvelle réunion à Paris sur la guerre en Ukraine et la défense européenne.
L'Élysée n'a pas à ce stade précisé qui participerait aux discussions, mais il sera évidemment question des déclarations de Donald Trump après la rencontre hier à Riyad entre délégations russes et américaines de haut niveau. Le président américain qui assure qu'il rencontrera Vladimir Poutine probablement avant la fin du mois. Un accord entre le Hamas et Israël pour la libération de 6 otages israéliens samedi prochain. Avant ça, demain, les corps de 4 autres otages seront rapatriés dans la bande de Gaza vers l'État hébreu. Peut-être parmi eux, les membres de la famille Bibas, devenus symbole de la tragédie du 7 octobre. À la une également, la chute de Kamagnola dans l'est de la RDC. La localité du Sud Kivu est tombée hier aux mains du M23 soutenu par le Rwanda. Dans ce journal également, notre dossier consacré aujourd'hui aux législatives en Allemagne. Scrutin organisé ce dimanche, mais dès ce mercredi, les candidats à la chancellerie se retrouvent pour un deuxième débat télévisé qui s'annonce électrique. Et puis au Brésil, l'étau judiciaire se resserre sur Jair Bolsonaro. L'ex-président brésilien est inculpé pour un projet présumé de coup d'État.
Washington convaincu de la bonne volonté russe sur le dossier ukrainien.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se félicite que la Russie souhaite s'engager dans un processus sérieux pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Déclaration hier à l'issue d'une réunion à Riyad entre des représentants russes et américains. Une rencontre en terrain neutre de délégations de haut niveau des deux pays. C'est une première depuis l'éclatement du conflit en février 2022. Des discussions qui sont de bon augure pour l'arrêt de la guerre en Ukraine, si l'on se fie aux dernières déclarations du président américain. RFI Washington, Guillaume Nodin.
C'est Donald Trump en personne qui le dit, il est davantage confiant quant à un accord avec Moscou sur un possible règlement de la guerre en Ukraine. Les discussions ont été très bonnes, assure le président américain qui pense qu'il va probablement rencontrer Vladimir Poutine d'ici à la fin du mois. Les relations avec le président russe sont apparemment plus cordiales qu'avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays n'était pas à la table des discussions, mais plutôt au menu. Donald Trump se dit déçu par le président ukrainien et il ajoute qu'il a eu un siège à la table pendant 3 ans et même bien avant ça, ce qui lui aurait permis de mettre un terme à la guerre et même le mot a été prononcé de ne pas la commencer. Pour rappel, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Pas invité à la table des discussions non plus l'Europe. Donald Trump se dit favorable à l'envoi de soldats européens sur place pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée. Les États-Unis, en revanche, n'enverront pas de troupes sur place, a-t-il une nouvelle fois confirmé. L'objectif de son administration, tel qu'exprimé par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui participait aux discussions, c'est que la paix en Ukraine soit une étape avant de renforcer la coopération économique et politique avec la Russie. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et ce tête-à-tête entre Moscou et Washington, il n'est pas du tout du goût des Européens et des Ukrainiens.
Des pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine que regrette Volodymyr Zelensky. Et les États-Unis et la Russie n'en ont pourtant pas fini d'échanger sur le dossier ukrainien. Les deux puissances se sont entendues pour nommer des négociateurs sur la guerre sans la participation des Européens ni de Kiev. Alors, est-ce une humiliation pour l'Ukraine? Nous avons posé la question à Ulrich Buna. Il est analyste en géopolitique et chercheur associé chez Open Diplomacy.
Une humiliation, c'est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, ça fait une couleuvre de plus à avaler, ça c'est sûr. C'est d'autant plus dur à avaler pour les Ukrainiens que Volodymyr Zelensky avait tout fait pour adouer Donald Trump en le flattant, en lui proposant des investissements en Ukraine, notamment dans les terres rares, en préparant le terrain, en essayant de le courtiser depuis des mois et des mois. Et au final, depuis mercredi et l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, tout ça a volé en éclats et les Ukrainiens se retrouvent un petit peu, on va dire, entre deux eaux. Ils essayent de s'accrocher aux Européens pour peser un peu plus sur cette négociation, mais on voit bien que côté européen, c'est aussi extrêmement complexe et qu'on essaie de s'organiser dans l'urgence pour éviter d'être complètement mis devant le fait accompli. Le simple fait que les Russes et les Américains se retrouvent en Arabie Saoudite est déjà en soi relativement frappant sur la mise à l'écart en fait de tout le continent européen, on va dire, sur l'avenir de l'Europe, tout simplement, en tout cas de son architecture de sécurité.
Et de son côté, la chef de la diplomatie de l'Union européenne appelle les États-Unis à ne pas tomber dans le piège russe. Kaya Kallas voit dans les manœuvre de Moscou, une tentative de diviser les Occidentaux. Emmanuel Macron affirme, lui, que la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens. Le président français, qui, comme lundi, organise aujourd'hui une réunion à Paris sur le dossier ukrainien.
Et sur le front ukrainien, cette fois, une partie de la ville d'Odessa se retrouve ce matin sans chauffage ni électricité.
La conséquence d'une attaque russe sur une zone résidentielle de la ville portuaire ukrainienne. Les coupures énergétiques concernent 14 écoles, 13 jardins d'enfants et plus de 500 logements. Une clinique pédiatrique et un jardin d'enfants ont été gravement endommagés, regrette le maire d'Odessa. Une personne par ailleurs a été hospitalisée.
De nouvelles libérations dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas.
6 nouveaux otages encore en vie doivent être libérés samedi prochain, les derniers dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve. Mais dès demain, 4 premiers corps seront rapatriés de la bande de Gaza, 4 autres la semaine prochaine. Le bureau du Premier ministre israélien s'est abstenu de donner leur identité, mais parmi ces victimes, il y aurait, selon le Hamas, les membres de la famille Bibas, une famille devenue le symbole de la tragédie du 7 octobre. Pierre Olivier.
Ce sont deux petites têtes rousses qui symbolisent à elles seules la douleur d'un peuple. Le 7 octobre 2023, Ariel, 4 ans, et Kfir, 8 mois, sont pris en otage avec leurs parents dans le kibboutz de Nir Oz. Les images de leur enlèvement et de leur mère qui serre ses enfants contre elle font le tour du monde. Puis à chaque rassemblement, d'anciennes photos des Bibas heureux sont affichées comme autant de fragments de vie d'une famille ordinaire devenue emblématique du traumatisme vécu par tout un pays. En novembre 2023, le Hamas annonce que les deux enfants et leur mère ont été tués dans une frappe israélienne, démenti formel de l'État hébreu. De leur côté, les proches des Bibas et toute une nation refusent de se résigner malgré la libération de nombreux enfants vivants. Il y a 20 jours, le 1er février, lorsque le père Yarden est libéré, seul, une nouvelle page de la tragédie familiale semble s'écrire. Ce mardi, malgré l'annonce du Hamas de remettre jeudi les 3 corps sans vie des Bibas, les proches de la famille veulent continuer d'espérer, à l'instar de toute une nation. Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Les troupes israéliennes se sont partiellement retirées hier du sud Liban. Elles ont laissé derrière elles le corps sans vie de 23 personnes, regrette la défense civile libanaise. Des cadavres qui ont été retrouvés dans des villages côtiers à la frontière libano-israélienne. Alors que l'armée israélienne se maintient sur 5 positions dans le sud du Liban, Beyrouth entend saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour obliger Israël à un retrait immédiat.
En République démocratique du Congo, à présent, la localité de Kamagnola est tombée aux mains du M23.
Les rebelles soutenus par le Rwanda se sont emparés de la ville du Sud Kivu après des combats qui ont duré plus d'une heure hier. Alors pour faire face à l'avancée du M23, la RDC cherche de l'aide, notamment auprès du Tchad. Selon nos informations, Didier Mazenga, envoyé spécial du président Tshisekedi, a rencontré hier Mahamat Idriss Déby. Kinshasa qui demande ainsi un appui militaire à N'Djamena, selon une source proche du dossier. Un conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, dans lequel les chefs religieux congolais s'investissent aussi. Catholiques et protestants, les représentants de la CENCO et de l'ECC étaient hier dans la capitale kényane, Nairobi. Après Kigali et un passage en Europe, ils plaident à présent pour le dialogue auprès des communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Le révérend Erink Nzenga, est secrétaire général et porte-parole de l'église du Christ Congo qui regroupe donc les communautés protestante.
Le président Ruto a promis de parler aux autres chefs d'État de la région et éventuellement nous allons rencontrer d'autres chefs d'État des EAC et puis SADC. La plus importante de ces propositions, c'est d'accélérer les démarches pour convaincre les acteurs internes de la nécessité de dialoguer. Il a proposé que la passerelle que nous devons avoir avec la fusion EAC-SADC soit beaucoup plus facilitée pour permettre justement une prise en charge de toutes ces initiatives au niveau de la région. De notre expérience, toutes les parties consultées ont unanimement accepté le principe de dialoguer. Seulement, il y a des préalables. Donc, c'est à ce niveau que nous tentons de travailler. La fusion EAC-SADC nous semble aussi raisonnable parce qu'à un moment, ça donnait l'impression d'une fissure entre les deux processus. Fusionner ces deux initiatives permet à ce qu'il n'y ait pas de tensions régionales et surtout qu'on n'internationalise pas les conflits sur le sol congolais.
Le révérend Erick Nzenga, l'actualité du continent encore et au Mali, cette nouvelle série d'opérations de l'armée et du groupe Wagner, opération menée dans la vallée du Tilimsi qui s'étend en partie sur les régions de Kidal et de Gao. Sept rebelles indépendantistes du FLA considérés comme terroristes par les autorités maliennes de transition ont été tués. Selon les informations recoupées par RFI auprès de nombreuses sources locales, une trentaine de civils ont également péri au cours de ces différentes opérations.
RFI 8h10 à Berlin, place au dossier de ce journal consacré à la dernière ligne droite de la campagne des législatives en Allemagne.
Le chef des conservateurs allemands fait pour l'instant figure de favori pour les élections de dimanche. Friedrich Merz qui affrontera ce soir le chancelier Olaf Scholz pour un deuxième débat télévisé. Un thème sera évidemment largement abordé, celui de l'immigration. Nous sommes en ligne avec Pascal Thibault depuis Berlin. Pascal, il faut dire que le sujet de l'immigration s'est imposé dans la campagne de ces législatives en Allemagne.
Oui, tout à fait. Alors, la raison, elle est assez simple. Ce sont les différentes attaques qui ont eu lieu. On se rappelle bien sûr celle avec une voiture bélier contre le marché de Noël de Magdebourg juste avant les fêtes. La semaine dernière, c'était également avec une voiture une attaque contre des manifestants à Munich. Et puis, il y a eu aussi une attaque au couteau, également en Bavière. Toutes ont été commises par des migrants, ce qui a provoqué de vifs débats et a aussi secoué l'Allemagne. L'alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, en deuxième position actuellement dans les sondages avec 20% des voix, dénoncer régulièrement le laxisme des responsables au pouvoir. Le parti parle dans son programme de remigration pour renvoyer massivement les étrangers. Le chancelier Scholz, sous pression, a répété inlassablement que le nombre de nouveaux arrivants avait baissé sensiblement l'an dernier, que son gouvernement avait expulsé plus de migrants en situation irrégulière que dans le passé, qu'il avait durci la législation, mais le chef du gouvernement actuel a du mal à convaincre. Les chrétiens démocrates favoris des sondages ont fait eux des propositions très fermes pour faire simple, plus ou moins refouler tout étranger aux frontières allemandes sans papiers légaux.
Et cette stratégie des chrétiens démocrates, elle a provoqué de vives critiques. Pourquoi, Pascal ?
Bien parce que le président de la CDU, Friedrich Merz, candidat à la chancellerie, a fait adopter une motion anti-immigration au Bundestag fin janvier avec les voix de l'AfD, du jamais vu depuis la guerre. Il l'a expliqué à la tribune du Parlement.
Une bonne décision ne perd pas sa valeur parce que les mauvaises personnes la soutiennent. Elle reste pertinente.
Alors après ce vote non contraignant pour le gouvernement, les députés AfD dans l'hémicycle ont exulté et la candidate à la chancellerie du parti d'extrême droite, Alice Weidel, s'est félicitée de ce vote.
C'est une victoire de la démocratie et bien sûr une victoire de l'AfD.
Alors cette stratégie de la CDU a suscité de nombreuses critiques, des centaines de milliers d'Allemands sont descendus dans les rues pour la dénoncer et Olaf Scholz a également été très critique.
Vous acceptez le soutien de ceux qui combattent notre démocratie. C'est une faute grave, c'est une faute impardonnable.
En même temps, il faut le souligner, Friedrich Merz répète dans chaque débat et dans chaque intervention que toute alliance en bonne et due forme avec l'AfD est exclue avec son parti chrétien-démocrate. Ces polémiques, en tout cas, même si elles ont dominé la campagne ces dernières semaines, n'ont pas eu de conséquences sur les sondages.
Pascal Thibault, correspondant de RFI à Berlin, merci à vous. Un mot à présent de l'état de santé du pape. Le souverain pontife de 88 ans souffre d'une pneumonie bilatérale, un diagnostic posé après 5 jours d'hospitalisation. Le Vatican annonce par ailleurs l'annulation de l'audience jubilaire de François prévue samedi, précisant que le pape argentin ne présiderait pas non plus la messe de dimanche.
Au Brésil, la pression s'accentue sur Jair Bolsonaro.
L'ex-président est inculpé pour un projet de coup d'État. Il est accusé d'avoir tenté d'empêcher le retour au pouvoir de son successeur Lula après le scrutin de 2022. Correspondance de Sarah Cozzolino.
L'étau se resserre un peu plus autour de Jair Bolsonaro. Basé sur une enquête de la police fédérale en décembre 2024, le procureur général pointe l'ancien président comme le leader d'une organisation criminelle structurée dont le but était de garantir sa permanence au pouvoir. De la campagne de désinformation sur le système des urnes électroniques jusqu'aux émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia, le rapport d'enquête de 800 pages de la police fédérale détaille les plans des 34 accusés accusés, parmi lesquels le colistier de Jair Bolsonaro en détention préventive depuis le mois de décembre. La décision est désormais entre les mains de la Cour suprême qui pourra décider de l'ouverture d'un procès. Mais l'ancien président a déclaré ce mardi ne pas être inquiet quelques heures avant l'annonce de son inculpation. Alors que la popularité de Lula est au plus bas, Jair Bolsonaro ne semble pas avoir renoncé à sa candidature à la présidentielle en 2026. Lui et ses soutiens répondent aux accusations en deux mots, persécution politique. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et puis du football et une série noire hier pour les clubs italiens en Ligue des Champions. L'AC Milan et l'Atalanta Bergame sont éliminés de la compétition. Qualification en revanche pour le Bayern Munich et Benfica, malgré des partages face au Celtic et Monaco.
Et quatre affiches ce soir, dont le choc Real Madrid-Manchester City. Match à suivre lors d'une soirée spéciale sur RFI. Coup d'envoi à 19h40, temps universel. Pour l'heure, il est 8h15 à Paris. C'était le journal de Simon Bourtembourg. Et on passe à la revue de presse internationale avec vous, Frédéric Couteau. À la une, un revirement diplomatique spectaculaire.
C'est un dessin publié par le Times à Londres. On y voit Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, brandissant une hache ensanglantée et demandant à Marco Rubio, son homologue américain assis en face de lui, « Quel morceau de l'Ukraine voulez-vous ?» La rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères américains et russes hier à Riyad en Arabie Saoudite et les propos tenus à peu près au même moment par Donald Trump sont à la fois surréalistes, inédit et historique.
Le revirement de Trump vers la Russie de Poutine bouleverse des décennies de politique étrangère américaine, s'exclame le New York Times.
En effet, précise le quotidien américain, alors que les pourparlers de paix s'ouvraient en Arabie Saoudite hier, le président Trump a clairement indiqué que l'époque de l'isolement de la Russie était révolue et a suggéré que l'Ukraine était responsable de son invasion. D'après lui, les dirigeants ukrainiens sont responsables de la guerre parce qu'ils n'ont pas accepté de céder des territoires à la Russie et par conséquent, ils ne méritent pas de participer au pourparler de paix. Vous n'auriez jamais dû commencer, vous auriez pu conclure un accord, a déclaré Trump en direction des dirigeants ukrainiens qui, de fait, souligne le New York Times, n'ont rien commencé du tout. Bref, remarque encore le quotidien américain, Trump a en quelque sorte fait savoir qu'il était prêt à abandonner les alliés de l'Amérique pour faire cause commune avec le président russe Vladimir Poutine. Il semble désormais considérer la Russie comme un partenaire potentiel et en faire l'un des meilleurs amis de l'Amérique.
Le Wall Street Journal, plutôt clément envers Trump, n'en revient pas non plus.
En l'espace d'un mois, le guerrier russe est devenu un prétendu artisan de la paix aux yeux de Trump. Une soudaine réhabilitation difficile à concevoir. Et le Wall Street Journal de rappeler qu'il y a 3 ans, le seigneur du Kremlin a déclenché la plus grande guerre terrestre en Europe depuis Hitler et son opération militaire spéciale a entraîné la mort de centaines de milliers de Russes et d'Ukrainiens. Ces missiles ont visé des immeubles d'habitation, des gares et des centrales électriques. Ces troupes ont enlevé des centaines d'enfants ukrainiens à leurs parents pour les emmener dans de nouveaux foyers en Russie. Elles ont torturé et exécuté des soldats ukrainiens en violation de toutes les règles internationales. Poutine a été accusé de crimes de guerre par un tribunal international et les États-Unis ont même sanctionné son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en 2022 comme l'un des architectes de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et pourtant, pointe le Wall Street Journal. Et pourtant, Sergueï Lavrov était bien assis hier à la même table que Marco Rubio.
Et Frédéric, comment expliquer ce revirement spectaculaire?
D'après le Figaro à Paris, pour Donald Trump, l'Ukraine est une nuisance qui a coûté trop cher aux États-Unis et qui interfère dans les relations d'intérêt normales entre grandes puissances. Cela explique que la présence de tiers l'encombre et qu'il ait abattu ses cartes avant même de négocier. Il veut la paix au sens qu'on lui fiche la paix et il est pressé. Poutine, lui, poursuit le Figaro, s'inscrit dans le temps long de l'histoire russe. Il voit l'occasion de reprendre sa juste place internationale, d'alléger les sanctions et de poursuivre le découpage du monde en rééquilibrant le poids de l'Ouest.
Alors, enchaîne le monde, difficile de présager de la suite des négociations.
Oui, mais à ce stade, la victoire est déjà claire pour Moscou, s'exclame le quotidien du soir français. La Russie est réhabilitée par ce révisionnisme américain que désapprouvent de nombreux élus au Congrès. Le Monde qui souligne qu'il s'agit là, encore une fois, d'une belle revanche pour les Russes. Pour Moscou, une phrase prononcée par Barack Obama en 2014 est demeurée impardonnable. Ce dernier avait qualifié la Russie de « puissance régionale qui menace certains de ses voisins immédiats, non par force mais par faiblesse ». Ce que Donald Trump propose aujourd'hui, c'est une reconnaissance de la zone d'influence russe et une réparation historique de ce camouflé, comme si les crimes de guerre massifs commis par l'agresseur depuis 2022 étaient de simples circonstances périphériques. et le quotidien Le Temps à Genève de conclure ainsi. Les États-Unis ont acté la fin de l'ordre international qu'ils ont porté à bout de bras, un revirement dont on peine à mesurer encore les dégâts qu'il va occasionner parmi ceux qui se pensaient encore alliés de l'Amérique.
La revue de presse internationale signée Frédéric Couteau. On y revient ce matin dans nos journaux, les pourparlers entre la Russie et les États-Unis. C'était hier à Riyad. La guerre en Ukraine s'est bien sûr invitée dans les discussions, mais les Ukrainiens eux-mêmes n'étaient pas invités dans la capitale saoudienne. Kiev écarté, les Européens aussi, tandis que Washington tente de s'imposer comme le médiateur principal. En direct de Kiev, on retrouve notre correspondante Emmanuelle Chaz. Bonjour. Cette rencontre de Riyad entre diplomates américains et russes marque donc un tournant. Après des années d'isolement sur la scène internationale, la Russie redevient un interlocuteur pour les États-Unis. Emmanuel, comment réagissent les Ukrainiens ?
Eh bien écoutez, Volodymyr Zelensky a annulé une visite prévue en Arabie Saoudite suite à ces discussions entre Washington et Moscou. Il a rappelé que toute décision au sujet de l'Ukraine devait l'être avec Kiev et de fait, aucune décision n'a été prise lors de cette rencontre, mais c'est vrai qu'elle redonne une place de choix à la Russie sur la scène internationale alors que la Russie en avait été exclue par les alliés même de l'Ukraine depuis l'invasion du pays en février 2022.
Et l'Ukraine mise de côté, donc les Européens continuent de se réunir entre eux et le président ukrainien Volodymyr Zelensky enchaîne les têtes à tête. Il était hier à Ankara où il a rencontré son homologue Recep Tayyip Erdogan. Est-ce qu'on assiste au réveil des autres alliés de l'Ukraine ?
En tout cas, c'est ce que souhaite Kiev. La question de l'envoi de troupes étrangères comme garantie de sécurité et de nouveaux lots d'aide militaire est examinée par les alliés européens de l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky s'est effectivement rendu en Turquie. Recep Tayyip Erdogan, lui aussi, veut sa place parmi les dirigeants étrangers qui comptent dans le destin de l'Ukraine et dans celui de l'Europe. Il propose notamment la Turquie comme lieu de négociation et rappelle qu'Ankara a déjà fait ses preuves en matière de médiation, notamment pour la mise en place du traité sur les céréales qui a permis un temps leur circulation en mer Noire.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que Vladimir Poutine était prêt à parler avec Volodymyr Zelensky, tout en remettant en doute sa légitimité, Emmanuel.
Tout à fait. Le Kremlin joue ici sur une situation qui a été créée par Moscou à cause de la guerre russe contre l'Ukraine. La loi martiale est en cours en Ukraine. Or, des élections ne peuvent être organisées lorsque c'est le cas, puisque comment s'assurer de leur bon déroulement quand des millions de personnes sont déplacées à l'intérieur même du pays, plusieurs millions de personnes sont réfugiées à l'étranger et que des centaines de milliers ont rejoint les rangs de l'armée. Ça fait autant de potentiels votants qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote et de candidats qui ne peuvent pas faire campagne dans des conditions normales. Sans la guerre, des élections auraient effectivement eu lieu au printemps 2024 comme dans toute démocratie. Mais contrairement aux dernières déclarations de Donald Trump, eh bien, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky n'est pas à 4%, mais à 52% selon un sondage réalisé en décembre. Donc même si le président ukrainien n'est pas forcément populaire en ce qui concerne sa politique intérieure, eh bien, les Ukrainiens et même nombre de ses adversaires politiques le reconnaissent comme légitime et font preuve d'unité, une union sacrée, si vous voulez, une union transpartisane qui fait bloc contre Moscou.
Emmanuel Chaz, en direct de Kiev pour RFI. Il est 8h22 à Paris. En football, les derniers tickets pour une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. 4 matchs au programme ce soir. La plus belle affiche, c'est ce choc. Real Madrid-Manchester City, pas le droit à l'erreur pour les Sky Blues qui ont déjà perdu leur barrage aller 3-2 à domicile. Mais ils seront face à des Madrilènes en forme. En particulier, Kylian Mbappé qui, après des débuts compliqués au Real, a peut-être eu depuis un déclic. Cédric de Oliveira est notre envoyé spécial à Madrid.
Un crack, c'est ce qu'on entend souvent dès qu'on prononce le nom de Kylian Mbappé dans les rues de Madrid. Pelocas Sergio, supporter du Real, a laissé son ami de 15 ans, Javier, déclarer son amour pour l'attaquant français.
C'est un crack, un phénomène, c'est le numéro 1. Il va terminer la saison avec 40 buts. Il avait juste besoin de s'adapter, mais à l'époque, quand on avait recruté Zidane, c'était la même chose. Il avait mis une demi-saison à s'adapter. Les cracks finissent toujours par retrouver leur niveau.
Plusieurs fois repoussé, l'idylle entre Mbappé et son club de cœur a finalement débuté l'été dernier. Mais le numéro 9 madrilène a d'abord vécu plusieurs mois compliqués. Javier Herraez est journaliste spécialiste du Real pour la Cadena Ser.
Il avait d'autres choses à gérer que le foot. Il fallait s'adapter à ses nouveaux partenaires, un nouveau pays, une nouvelle ville. Il a eu des soucis avec la sélection française. Il a aussi été impliqué dans cette affaire de viol présumé en Suède. Toutes ces choses qui n'étaient pas très positives.
Mbappé avait produit des prestations décevantes contre Liverpool, le Barça ou encore l'Athletic Bilbao cet automne. Mais depuis décembre, un déclic s'est produit. Il a déjà marqué à 24 reprises cette saison.
Je savais que je pouvais changer les choses, et les choses ont changé, donc je suis très heureux de pouvoir aider mon équipe comme je l'ai fait lors des derniers matchs. Je devais faire plus, je le savais, et il y a eu un moment, un déclic. Je ne suis pas venu à Madrid pour mal jouer, j'ai changé, et maintenant, il faut continuer comme ça.
Même si son équipe ne convainc pas toujours dans le jeu, son entraîneur Carlo Ancelotti est ravi de pouvoir compter sur lui avant de retrouver Manchester City.
Il a montré qu'il était bien physiquement maintenant. Il est motivé évidemment et je trouve qu'il gère plutôt bien le stress. Il a l'air tranquille. Et en ce moment, je le trouve vraiment bien.
C'est sans doute la clé du retour au premier plan de l'ancien joueur du PSG. Sa condition physique est désormais optimale et il a maintenant toutes les cartes en main pour mener encore le Real vers les sommets.
Pour moi, c'est un joueur différent. Il fait des choses qui surprennent. Il est de la caste des Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est la super classe. Et ce genre de joueur ne doute jamais. Il va fédérer autour de lui pour les prochaines années. Le leader du Real maintenant, c'est Kylian Mbappé.
Buteur au match aller à Manchester, Mbappé veut confirmer au match retour dans le genre d'affiche dont il raffole pour montrer au Real qu'il ne s'est pas trompé sur son compte et peut-être lui apporter une 16e Ligue des Champions en fin de saison. Cédric de Oliveira, Madrid, RFI.
Real Madrid, Manchester City, coup d'envoi à 20h temps universel à suivre. En direct sur RFI dans une soirée spéciale, prise d'antenne à 19h40 TU. À suivre parmi les autres matchs PSG Brest, PSV Eindhoven, Juventus Turin et Borussia Dortmund, Sporting Portugal. C'est la plus grande lagune d'eau salée d'Europe, la Mar Menor, au large de l'Espagne, dans la région de Murcie, dans le sud-est. Cette Mar Menor, mer mineure, est devenue une personne juridique. Le Conseil des ministres espagnol a validé un décret royal en ce sens. Alors pourquoi une telle décision? Qu'est-ce que cela signifie? On répond à la question d'environnement de ce matin avec Pauline Glaise. Pauline, tout a commencé avec une catastrophe écologique.
À la fin des années 2010, sous pression de l'urbanisation et de l'agriculture notamment, l'écosystème de la mer mineure s'effondre. 85% de la flore marine disparaît, des milliers de poissons meurent, en cause une eutrophisation de l'eau, elle contient trop de nutriments, cela favorise le phytoplancton, en excès limite la photosynthèse des plantes sous-marines et fait chuter la teneur en oxygène. Alors des habitants lancent une initiative législative populaire, plus de 600 000 signatures sont réunies et en 2022, le Parlement espagnol vote une loi accordant des droits propres à la Mar Menor.
Après un recours du parti d'extrême droite Vox et la validation de la Cour constitutionnelle, un décret a donc validé les règles qui régissent les organes de représentation et de gouvernance de cette Mar Menor.
Ces organes forment qu'Eduardo Salazar Ortuño, avocat spécialiste des questions environnementales, compare à un conseil d'administration de la lagune. Et Marion, à la table, il y aura beaucoup de monde.
Il y a une tutelle composée de citoyens et de représentants des autorités. Pour commencer, siégeront ceux qui ont promu la loi de la Mar Menor, puis seront choisis des riverains qui se sont illustrés dans la défense de la mer mineure. Dans un deuxième comité, le comité des gardiens, sont représentés tous les secteurs, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, écologistes, riverains, syndicats, professionnels du tourisme. Et le troisième est un comité de scientifiques.
En attendant, Pauline, des actions en justice ont déjà été intentées.
Dans l'affaire Topillo, des exploitants agricoles ont été accusés d'avoir dessalé de l'eau pour irriguer et d'avoir rejeté des concentrés de sel et de nitrate. Mais jusque-là, il n'y a pu y avoir que des actions dites populaires. La semaine dernière, Eduardo Salazar Ortuño a annoncé qu'un procès dans lequel la Mar Menor lancerait une action dite particulière allait pouvoir se tenir en mai 2026 et ce sera une première en Europe. Cette subtilité juridique est importante. Cette fois, la lagune agit en son nom propre.
La Mar Menor sera assise aux côtés du procureur. Elle peut demander des dommages et intérêts pour la pollution. Ça, c'est totalement nouveau. Lorsqu'il s'agit d'une accusation dite populaire, ce qui est en jeu, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas l'intérêt particulier d'un écosystème. Et donc, l'indemnisation ne va pas à la Mar Menor, elle va dans les caisses de l'administration qui n'a pas pris soin de la Mar Menor.
Autre différence, en tant que victime, la Mar Menor peut s'opposer à un accord entre le bureau du procureur et le prévenu. Cela n'a pas été possible lors d'un premier procès dans l'affaire Topillo.
Pauline Glaise pour la question d'environnement. Dans un peu plus d'une minute sur RFI, c'est le retour de l'actualité africaine.
RFI, la sélection du mois.
Ben l'oncle Soul.
I got everything I need, you know I got home. I got everything I want, you know I got home.
Benjamin Epps.
5 gosses, des 5 pères différents. Viens, je t'emmène chez le jeune, là où cette chaîne de vie est moche. Chaîne de vie qu'on aime. Wow.
RFI Musique.
Tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins. Emmanuel Bastide.
Notre émission est enregistrée à Marrakech à l'occasion de la conférence mondiale sur la sécurité routière. Comment sortir de la fatalité des accidents de la route en Afrique ? Quelle prévention ? Comment faire appliquer la réglementation sur un continent où la route empruntée à pied, à moto, en voiture, en bus, constitue la première cause de décès des 5-29 ans ?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Objectif 8e de finale, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouve Manchester City une semaine après sa victoire 3-2 en Angleterre. Pep Guardiola et les Sky Blues rêvent de prendre leur revanche. Le PSG tentera lui de confirmer sa large victoire à Brest 3-0. Les barrages retour de la Ligue des Champions, ce sera à vivre en direct et en intégralité ce mercredi sur RFI à partir de 19h40 TU.